Et toi, il y a des situations qui t'ont gêné, il y a des choses qu'il a dites qui t'ont gêné, qui t'ont
Ah
sauté aux yeux?
oui, il m'a traité de beurette à chicha. Mais c'est une grosse insulte pour moi de
Pourquoi c'est
faire
une
traiter
insulte pour toi?
de beurette à chicha. Une beurette à chicha, tu sais ce que c'est? C'est des vieilles meufs qui vont dans des chichas et qui twerk et qui. Non, moi je suis pas comme ça.
Et comment tu l'as pris ça?
Beurette peut-être, parce que je suis algérienne, mais pas beurette à chicha. Non, tu vois, pour me traiter comme si j'étais une crasseuse, sauf que moi je suis pas comme ça.
La voix de son voix, un podcast de Fadma Zelmi.
Beurette, beurette à khel, beurette à chicha ou encore beurette voilée. La beurette est cette jeune fille d'origine maghrébine qui vit en cité et qui se distingue par son désir d'intégration à la société française, en dépit de sa famille et de sa religion rétrograde. C'est la musulmane aux mœurs légères, c'est la bimbo orientale, la Sherazade des temps modernes. Elle a pour égérie Nabila Benatia, Maïva Guenam ou encore Zaya Dehar. La beurette est l'antinomie de la bourgeoise, de la fille de bonne famille. Elle est celle qu'on ne veut pas être. Nous allons voir ensemble, dans cet épisode, comment ce terme « beurette » apparu dans les années 80 et qui a subi un glissement sémantique dans les années 2000 devient un terme insultant et discriminant pour les femmes d'origine maghrébine. L'histoire du mot « beurette » remonte aux années 80. En 1983, du 15 octobre au 3 décembre, des milliers de personnes issues de quartiers populaires marchent de Marseille à Paris pour dénoncer le racisme, la répression policière et les crimes racistes. C'est la marche pour l'égalité et contre le racisme. Un mouvement d'une grande ampleur qui a très vite été rebaptisé « marche des beurs » par les médias. Dans les années 80, ces termes « beurre » et « beurette » circulent couramment dans la sphère associative et politique, à gauche comme à droite. Donc ces expressions familières recouvrent une connotation « sympathique », mais qu'elles ont progressivement perdu. Le masculin beurre est devenu synonyme du jeune désœuvré qui tyrannise les habitants de la cité. Il a d'ailleurs aujourd'hui laissé place au terme racaille, immortalisé en 2005 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur lors d'un déplacement officiel à Argenteuil.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Quant à l'expression beurette, loin de l'image de la fille émancipée, polie et discrète qui prévalait dans les années 1980, elle ressurgit aujourd'hui dans la formule « beurette à chicha ». Chargée d'une forte connotation sexuelle, cette cagole maghrébine est désormais synonyme de fille vulgaire, bruyante et trop maquillée, qui fréquente tous les soirs les bars à chicha. C'est devenu l'archétype de la bimbo orientale sans cervelle. Comme ne le souligne la sociologue et théoricienne du mouvement décolonial français, Nassira Ghanif Souleymas.
Cette jeunesse-là va être constituée comme un groupe homogène qui est désigné par le terme « beurre ». Donc on parle de la génération beurre. On va parler assez rapidement de la littérature beurre. Et on va parler, alors peut-être pas du problème beurre, parce que justement, beurre sert à montrer que l'intégration c'est possible. Mais l'idée c'est de montrer une génération qui donc est apte, qui a une aspiration à l'intégration, puisqu'on va parler de désir d'intégration, ce qui est en soi un oxymore. Et surtout, il y a une tonalité paternaliste très forte dans cette expression, une forme de condescendance qui conduit à les mettre sous tutelle, littéralement. Il faut nommer celles qui vont devenir, en quelque sorte, les modèles d'intégration, celles dont on attend que l'intégration soit démontrée de façon éclatante. Et donc, au lieu de passer simplement au féminin en ajoutant un « e », donc « beurre », on ajoute le suffixe, qui est un suffixe qui accentue encore plus la mise sous tutelle, la domestication, puisqu'on retrouve les mêmes connotations que dans « midinette »,« soubrette », etc. Donc ça donne beurette. Typiquement une figure orientaliste. C'est une figure qui est à la fois d'une femme qui doit effectivement être attirante, belle, désirable, mais surtout qu'on peut s'approprier, qui devient un objet sexuel, qui devient un objet de... sur lequel il faut prendre l'ascendant. Le mot, il a eu une certaine faveur, très brève, et aujourd'hui, il est chargé parce qu'il est racialement chargé, parce qu'il est sexuellement chargé, parce qu'il est historiquement, généalogiquement, colonialement chargé, et que c'est un mot de l'humiliation des femmes arabes.
Comme nous le déclare la sociologue Nassira Ghanif Souleymas, ce mot, qui est sexuellement, racialement et colonialement chargé, a pris racine dans l'orientalisme, et cela dès le début du XVIIIe siècle, à la traduction en français des Mille et une nuits par le voyageur Antoine Galland. Dans ses contes célèbres, la rusée Scheherazade utilise ses connaissances et son imagination pour sauver sa vie durant Mille et une nuits, en racontant à son roi d'interminables histoires d'amour, teintées d'érotisme pour certaines, qui tiennent sa curiosité en haleine. Loin de l'image d'un islam corseté, ces contes traduits de l'arabe infusent dans les sociétés occidentales l'idée que l'Orient serait le territoire par excellence d'un érotisme débridé, poétique et violent. Cette idée est accentuée lors de la première phase de la conquête de l'Algérie par la France entre 1830 et 1847. Durant laquelle circulent des fantasmes associés au mystère que suscite la femme voilée et au désir que provoque la mauresque au sein nu, qui alimente autant la peinture que la littérature désormais qualifiée d'orientaliste. Ces musulmanes inspirent Delacroix, Ingres, Chassériaux, Jérôme, Dinet ou encore Fromentin autant que les écrivains. Victor Hugo publie dès 1828 un recueil de poésie intitulé « Les Orientales ». Flaubert, Lamartine et Nerval rédigent chacun leur voyage en Orient et y véhiculent la figure de la femme lascive de harem. Ces artistes dépeignent alors un univers à la fois étrange et fascinant, dont l'exotisme a une tonalité explicitement érotique. La sensualité de ces femmes, leur attitude abandonnée suggère une lascivité impossible à concevoir en Occident. Le corset des bonnes mœurs de la société européenne s'en trouve débridé, ce qui bouscule les conventions et le conformisme bourgeois. Ce sont donc les prémices de la fétichisation du corps de la femme arabe. L'orientalisme disparu, l'Algérie libre, l'image de cette mauresque lascive fumant son hookah laisse place peu à peu à la beurette à chicha.
La beurette, la beurette, ça voulait dire « Eh voilà, il est trop beau Booba !»
Dans les années 2000, la beurette est en quelque sorte remasterisée. C'est une beurette 2.0 qui prend place dans la culture populaire. Elle est d'ailleurs reprise par de nombreux rappeurs, comme notre cher Booba. Dans son titre Vrai, publié en 2014, et Génération Assassin, publié l'année d'après, dans lequel il clame qui signe définitivement l'arrêt de mort de ce mot, parce que la beurette est associée à cette chicha qui ne la quittera plus. Ou encore le rappeur Rof, qui fait référence aussi dans son titre Zlatana à ses filles musulmanes vénales aux mœurs légères.
Venue du bled, elle a jeté son hijab, la chétana.
Et dans lequel il fait aussi référence à l'ancienne escort girl Zaya Dehar, d'origine algérienne.
Monnaie, elle n'est pas déclarée comme Zaya, mais en fait, pareil.
Et aussi le rappeur marseillais El Matador, qui a eu son heure de gloire, qui a dédié un pamphlet musical contre celle qu'il surnomme Beurette.
Beurette est maghrébine, mais les UV lui donnent un teint orangé.
Qu'il décrit comme des filles sages devant leurs parents, mais qui, une fois dans l'espace public, n'hésitent pas à s'exhiber. Elles sont ces bimbos orientales que l'Occident a perverties. Comme vous le savez, je ne peux que vous partager des extraits, mais je vous invite bien sûr, si vous le souhaitez, à écouter ces titres en entier, ils seront d'autant plus parlants, et bien sûr, toutes les informations seront disponibles dans la description. Ainsi, cette figure imprègne la culture populaire, au point de devenir une insulte parmi tant d'autres, utilisée dans les cours d'école. Elle rejoint le rang des insultes sexistes comme salope, poufias, etc. Et cela quelle que soit en réalité l'origine ethnique de ces jeunes filles ainsi traitées. Donc la beurette est devenue, de fait, une insulte, contre toutes ces maghrébines amorales, mais elle est aussi devenue une catégorie sexuelle dans les sites pornographiques. En effet, sur Google, lorsque l'on tape le mot « beurette » sur la barre de recherche, ce sont des milliers de résultats pornographiques qui apparaissent. En 2019, le site Xhamster, qui compte plus de 10 millions de membres, a publié son classement des termes les plus recherchés en France. Résultat, « beurette » figurait en tête. Arabe et marocaine, respectivement, en 7e et 8e position. La France est le seul pays d'Europe occidentale à placer en tête des occurrences pornographiques un mot-clé faisant référence à une catégorie raciale. Donc au-delà d'un simple fantasme sexuel, la beurette est en réalité un fantasme social. La beurette voilée qu'on dévoile dans les films pornographiques, ce sont les descendantes de ces mêmes femmes qu'on exhibait dans les cartes postales au temps des colonies. Ces mêmes femmes qu'on dévoilait de force en Algérie, ou qu'on incitait à se dévoiler pour être des femmes modernes dans des affiches de propagande des rues d'Alger. Le mot « beurette » a une histoire. Ce n'est pas un simple qualificatif innocent qu'on utilise pour désigner les jeunes filles arabes plutôt jolies. Ce n'est pas non plus une simple insulte qui vise les filles très coquettes dans les cours d'école. C'est en réalité une réinstauration de la domination machiste et raciste dans la bouche de celui qui le prononce. Donc évitons d'utiliser le mot beurette, disons plutôt rebeu.